Arras. Arras.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info 30, le rendez-vous d'actu local sur PFM et bienvenue ici à l'hôtel de Guignes d'Arras à l'occasion du cabaret des colères organisé par l'association Colère du Présent. Au programme de notre demi-heure, du sexe en mots, du sexe en actes, de la sexualité théorique et pratique avec en ligne de mire cette question: comment nommer nos sexualités sans les normer? Cette question, elle est au cœur de l'ouvrage collectif Script et Sexualité, un ouvrage qui est le fruit d'un travail collectif de 4 ans mené au sein de l'Université Populaire de Colère du Présent, un livre auquel a participé Marianne Chargois, travailleuse du sexe, artiste et performeuse, est en plateau tout de suite avec nous et en compagnie de deux autres performeurs, Maxime Mass et Yo. Vous allez, messieurs, dames, nous présenter dans un tout petit instant vos performances respectives et puis dans une deuxième partie, on parlera plus précisément du livre que j'évoquais il y a un tout petit instant, Script et Sexualité, avec leurs deux auteurs, enfin les deux directeurs du moins, et puis le préfacier. J'ai déjà trop causé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent et un peu au pied levé à notre invitation. J'ai envie de vous poser d'abord une question basique et simplissime, mais ô combien complexe. C'est quoi un script, et plus encore, pardon, un script de la sexualité ? Marianne, puisque vous avez participé à l'ouvrage, c'est à vous qu'incombe de répondre à cette question massive.
Alors, dans l'idée de s'intéresser et surtout d'écrire nos scripts sexuels, l'envie, c'était de pouvoir s'intéresser à la construction de nos sexualités, pas sous le prisme de l'aveu, pas sous le prisme de quelque chose à découvrir, mais de vraiment rentrer dans une forme de narration qui articule nos parcours sexuels personnels aux structures plus culturelles, plus collectives dans lesquelles on évolue. Et donc, pour cet exercice, on a relié nos scripts personnels, intrapsychiques, donc tout ce qui relève de nos histoires familiales, d'un contexte social, d'une époque, etc., dans laquelle on évolue, relier relier cette construction sexuelle aux structures de genre dans lesquelles on évolue, aux événements historiques, aux histoires de classe dans lesquelles on grandit. Et donc, ce qui fait que ça donne une histoire de nos sexualités en volume, des histoires de nos sexualités du coup qui sont politiques et qui sont reliées aux structures sociales.
Un script, c'est quoi alors? C'est un scénario? C'est la façon dont c'est écrit et dont s'écrit et dont s'écrira encore notre sexualité?
Les scripts sont à la fois très personnels et donc très identifiés selon les personnes qui l'écrivent, avec des styles aussi très particuliers, avec des personnes qui vont avoir des écritures très narratives, très chronologiques, d'autres des formes plus expérimentales ou plus diffractées. Mais c'est aussi, du coup, s'intéresser à comment se construisent nos fantasmes en lien avec quelles structures d'oppression, quels endroits de réparation aussi on peut avoir dans nos sexualités, comment des rencontres avec des pensées comme le féminisme ou avec des pensées décoloniales, des pensées libertaires vont influencer aussi nos pratiques sexuelles. Voilà, et donc de bien montrer que nos pratiques sexuelles et nos façons de les vivre ne sont pas juste des petites affaires privées, individuelles, avec une autre personne, mais qu'on est vraiment relié de façon collective et de façon large aux structures dans lesquelles on évolue.
C'est social, c'est politique, c'est culturel.
C'est historique.
C'est historique et donc lié à un moment donné. On est au-delà, disons, de l'opposition nature-culture. La sexualité, c'est pas simplement une question naturelle, Max.
Non.
Sim.
Oui. c'est pas une question naturelle. Je sais pas si c'est une question naturelle ou pas. Ou en tout cas, là, comment je pourrais expliquer? Selon moi, mais c'est ma position personnelle, une sexualité dans laquelle, j'aime pas dire épanoui, mais dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on se sent épanoui, non, ça tient pas du domaine de l'inné, en tout cas pas dans une société qui me semble assez normative et assez restrictive, et où la façon dont tu as imaginé la sexualité, enfin même les sexualités, est quand même relativement stéréotypé, en fait, finalement. Donc voilà, je crois pas que les... finalement être épanoui là-dedans. Mais après, il y a des gens qui sont épanouis dans le stéréotype, et tant mieux pour eux. Hein. Je suis ravi pour ces personnes, pas moi. Mais voilà, je pense que non, ces choses-là... voilà, je parlerai pas de naturel ou pas naturel, plutôt d'inné ou d'acquis, et comment on acquiert soi-même, et comment on apprend. Et pour apprendre, il faut apprendre à désapprendre. Et il faut un peu lâcher les choses qu'on a dans la tête et se dire, bon, allez, peut-être je peux construire moi-même par des petits bouts.
Alors, vous n'avez pas participé, vous, Maximas, à l'ouvrage dont il est question, hein, Script et sexualité. Pour autant, je suppose que vous avez vous-même réfléchi à votre sexualité. Et vous...
Ah, je réfléchis tous les jours à ma sexualité.
Vous le disiez il y a un petit instant, juste avant l'antenne.
Oui. Oui, mais je suis tous les jours amené à parler de sexualité parce que...
Donc, vous avez, vous réfléchissez, je suppose, au script de votre sexualité.
Soit script... Si on entend les scripts comme l'histoire de ma sexualité, des fois j'y réfléchis, pas toujours, parce que des fois ça m'embête aussi de réfléchir à ça. Mais je réfléchis à ma sexualité future, à ma sexualité présente, à ce qui se passe ou ce qui ne se passera pas, ce que j'avais envie qu'il se passe et qui ne s'est pas passé. Ça arrive souvent.
Pour la sexualité future, vous avez encore le temps. Pour nos éditeurs qui ne vous voient pas, vous n'êtes pas bien vieux.
Non, mais bon, la vie est courte. Hein. Il faut en profiter. Hein,
elle peut être longue, hein, Jean.
Ouais,
on n'en sait trop rien.
J'en profite. Chaque jour suffit sa peine.
Alors, votre vie, précisément, pour une part, du moins, vous la consacrez à montrer, si je puis m'exprimer ainsi, votre sexualité sur scène, du moins à la performer, c'est ça, Marianne Chargois ?
Alors, non, pas du tout. Je ne montre pas du tout ma sexualité sur scène.
Vous montrez du moins certaines pratiques, celles que vous avez ou avez pu avoir avec des clients.
Oui, mais justement, précisément, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail de performeuse, c'est le travail du sexe. Parce que moi, je suis travailleuse du sexe, je suis extrêmement militante pour les droits des travailleurs du sexe. Je travaille beaucoup sur la déstigmatisation et sur la dédramatisation qui entoure ces activités. Et pour moi, une des façons de dépaniquer le débat autour de ces questions-là, c'est de montrer, d'expliciter ce qui se joue et ce qui se passe dans le travail du sexe. Et donc... pour moi, un des biais que je trouve les plus efficaces et puis les plus justes, c'est de parler depuis mon endroit à moi, mes pratiques à moi dans le travail du sexe et ce que j'y vois et ce que j'y analyse. Donc j'ai une façon de travailler qui est assez documentaire, où je récolte des matériaux dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes séances avec mes clients.
Il y a même une dimension ethnographique, dites-vous, à vos performances.
Tout à fait. Là, dans la performance Golden Flux que je présente dans le cadre du cabaret, voilà, on y voit des images qui sont issues d'une séance avec un client, voilà, avec un fétichisme particulier, qui est un fétichisme autour du gavage alimentaire.
Alors on va peut-être préciser un peu, pardon de vous couper la parole, vous dites sur scène que vous êtes une putain d'alchimiste, je vous cite, vous transformez pas le plomb, mais en fait l'urine en or, et cette transformation, c'est l'objet donc de cette performance où vous racontez vos pratiques, vous l'avez dit, travailleuse du sexe, avec des personnes à qui vous faites ingérer en fait, vous le dites.
Ben dans le cadre de mon travail, donc il y a effectivement des personnes qui me payent pour leur uriner dans la bouche. Et donc, à partir de cette pratique, je déplie une réflexion qui est que je raconte justement comme pour les scripts, où il y a une dimension d'une pratique que j'ai découverte et que je fais dans mon travail, donc l'endroit professionnel qui est stigmatisé, dans lequel on n'a pas le droit. J'y raccroche des endroits de construction personnelle que je répare et que je retourne en puissance via cette pratique. Et je retourne l'insulte pute à laquelle on est renvoyé quand on est travailleuse du sexe en fierté, puisque finalement je suis assez puissante dans mon activité.
L'insulte se digère en fierté, c'est ce que vous dites, pardonnez-moi, dans votre performance Golden Flux.
C'est ça, mais la fierté qui est très présente dans toutes les militances des minorités sexuelles. Donc évidemment, dans les militances putes, voilà, où on n'est plus dans « tu m'insultes de pute, c'est moi qui m'autodésigne comme pute et j'en suis fière ». Bon, ce qui est très présent, évidemment, dans toutes les identités LGBT. Voilà, quand on vient d'identité stigmatisée, le retournement de l'insulte en fierté, c'est vraiment l'endroit de construction du queer, et effectivement que j'exploite dans mon travail de performeuse.
Paris. Alors, qui dit performance dit forcément public. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est quel public, et là je m'adresse à vous trois évidemment, on fera le tour, viennent voir ces performances. Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà initiées, qui connaissent un petit peu, qui sont eux-mêmes peut-être des travailleurs du sexe ou qui pratiquent une sexualité un peu différente des autres, qui viennent apprendre un peu plus, ou des gens curieux qui viennent découvrir? Est-ce que vous avez tous les publics, Marianne?
Je pense que ces performances s'adressent à tout le monde et évidemment au plus grand nombre. Au contraire, c'est pas du tout, c'est des performances qui ne s'adressent pas du tout à un public d'initiés, mais au contraire, puisque l'idée c'est de dédramatiser les personnes qui ne connaissent rien au sujet, au contraire, sont bienvenues. Mais c'est plus, je pense, une histoire de contexte, dans quel contexte on joue ce type de performance. Et ça, par contre, les endroits où on peut montrer des performances où il y a de la nudité, où il y a question de sexualité, où il y a question de travail du sexe, et où on est en plus dans des revendications politiques, c'est extrêmement rare. Et c'est d'ailleurs pour ça que je crée aussi beaucoup de festivals, parce que je crée mes propres espaces pour pouvoir montrer mes performances et celles de mes amis ici ce soir.
Oui.
Ouais, donc Maxime, Yo, ben, pour parler un petit peu de vos performances, alors on ne sait pas beaucoup de choses sur ce qui nous attend ce soir. Par contre, on sait qu'il y a peut-être une trousse de soins qui doit être nécessaire. Il y a quand même des choses qui sont faites sur scène. Expliquez-moi un petit peu comment on peut aller, entre guillemets, se faire souffrir devant un public. Comment ça marche? Est-ce que c'est bien réceptif? Alors, déjà, on dit se faire souffrir entre guillemets.
Ouais, déjà, je ne sais pas beaucoup si on se fait souffrir. En tout cas, moi, ça ne me fait pas beaucoup souffrir. Je parlerai plus de notion de plaisir, mais ça, c'est tout à fait personnel. En fait, je pense que ce qui est le plus important dans nos performances, c'est plutôt ce qu'on raconte plutôt que ce qu'on utilise. Sans tout raconter non plus, mais voilà, on aime bien utiliser d'autres fluides que ceux de Marianne. Comme nous, c'est plutôt le sang qui nous intéresse, les aiguilles, les lames de rasoir, les cordes, tout ce qui est associé à beaucoup de douleurs finalement et des choses très, très extrêmes.
Enfin, qui peuvent être perçues comme des douleurs par quelqu'un qui justement ne pratique pas.
Ah oui. Puis en général, les aiguilles ou les lames de rasoir ne sont pas synonymes de caresses et de délicatesse. Et en fait, finalement, les outils qu'on utilise, il me semble, mais Yo, tu me contrediras si je dis des bêtises, il me semble qu'ils deviennent presque secondaires très vite dans les performances, où c'est plutôt ce qu'on raconte et comment on peut jouer avec nos corps et justement devant cette mise en public qui est assez particulière. Je ne sais pas si tu veux en rajouter quelque chose.
Non, après oui, c'est on a des pratiques, on fait du bondage, du play piercing dans nos performances. Et c'est surtout pour relever des questions, je pense, comme là celle de Stigmate, la performance qu'on en fait, c'est surtout sur les rapports de dominance et de dominé. Et pour raconter, pour montrer aux gens que le dominant n'est pas forcément celui qu'on croit, parce que si le dominé ne dit pas oui, il n'y a pas de dominant. Donc en fait, qui est vraiment le dominant dans l'histoire? Voilà.
Nous, l'idée, c'est un peu aussi décalquer, parce que ça amenait sur un plan sensuel et pas tant sexuel, mais voilà, il y a un rapport charnel entre nous, mais c'est aussi de calquer ça sur des problèmes sociétaux un peu plus larges, sur les questions de domination et de dominer. Et de la même manière que Marianne, nous, c'est pas du tout pour un public d'initiés. Ça arrive qu'on fasse ces performances dans des squats ou dans des milieux plutôt queer. Et finalement, vraiment, je pense que c'est les endroits les moins intéressants pour nous, parce que la moitié, c'est nos amis, et ils sont assez d'accord avec nous sur ce qu'on pense et sur ce qu'on revendique. Et du coup, c'est pas là où on construit le plus, finalement. Je préfère autant un grand public qui n'a pas du tout l'habitude
tout à fait,
et qui va poser plein de questions après. Ce sera plus intéressant. comme ça.
Alors, avant de vous laisser aller vous préparer, j'ai encore une question qui me semble assez intéressante et plutôt générale. Les travailleurs du sexe, ben évidemment, la législation. Alors, en Belgique, on peut comparer Belgique, France, comment ça marche, Marianne? Donc, est-ce que tu fais partie d'une association qui milite justement pour que ça change? Est-ce que vous avez vos entrées au Parlement, au Sénat, je ne sais pas, pour essayer d'imposer des choses?
Oui, ben moi, je fais partie du STRAS, donc le syndicat du travail sexuel qui existe en France depuis 2009. Donc évidemment, on milite beaucoup puisque là, la situation, elle est assez dramatique puisque depuis un an, on a la pénalisation des clients qui est passée. Donc actuellement, en tant que travailleuse du sexe, on a le droit d'exercer, on a le droit de vendre des services sexuels. C'est pas du tout interdit. Par contre, personne n'a le droit d'acheter nos services. Donc on est évidemment dans une position extrêmement compliquée. Et en plus, on subit déjà les lois dites sur le proxénétisme. Alors donc, à savoir que les lois sur le proxénétisme ne désignent pas en France la coercition, le fait de subir une contrainte. Ça désigne le fait de, tout simplement, par exemple, louer un appartement. Si je loue un appartement, comme n'importe qui d'autre, le propriétaire a l'obligation de m'expulser puisque sera considéré comme proxénète. Donc en fait, toute personne qui accepte l'argent d'une travailleuse du sexe est à un moment ou un autre considéré comme proxénète. Voilà. Donc évidemment, on milite beaucoup. Par contre, malheureusement, en France actuellement, on a un féminisme abolitionniste qui est majoritaire en France, en tout cas présent dans les organes de pouvoir et au Parlement. Et donc, on a beaucoup de mal à se faire entendre puisque on a toujours une raison, en fait, pour nous dire que nous ne sommes pas légitimes à parler, que notre parole serait manipulée par des tierces ou que on ne sait pas ce qu'on dit, que on dit ça, mais en fait, on ne se rend pas compte que, en réalité, on vit mal les choses et qu'on a besoin d'être sauvés. Donc, en fait, on est considérés perpétuellement comme des mineurs desquels on doit prendre soin, en fait.
Maxime, est-ce qu'on peut parler un peu, alors je sais pas si c'est un collectif, Utsopi, donc qui a été créé au mois de décembre 2015, c'est il y a ça. 2 ans.
C'est une association depuis très peu.
Donc ça, c'est en Belgique, et apparemment oui. Les lois belges sont plutôt hypocrites de ce côté-là.
Sont complètement hypocrites, ouais.
Alors, c'est quoi exactement ce collectif?
Donc nous, on s'est créé en 2015 pour voilà, essayer de fédérer un peu les travailleuses et travailleurs du sexe, parce que ça n'existait pas encore, à l'instar du STRAS qui va fêter ses 10 ans. Et donc aussi pour se représenter politiquement sur l'idée de vous arrêterez de parler ou de faire des choses à propos de nous sans nous. Voilà, c'est le même système qu'en France en disant mais si vous voulez parler de nous, vous allez le faire avec nous, sinon vous ne le ferez pas. Et franchement, vous ferez chier si vous le faites. Voilà, c'était un peu l'idée. Après, voilà, on est dans un système fédéral en Belgique, donc il n'y a pas un système qui prévaut pour toute la Belgique, c'est assez différent. Vous avez peut-être entendu parler des villes comme Anvers où il y a un quartier rouge qui est tout à fait réglementaire. Donc voilà, et sur Bruxelles, c'est le bordel. Et dans d'autres villes, c'est complètement criminalisé, clients et travailleuses du sexe. Donc c'est assez flou. Mais voilà, on est dans une situation hypocrite aussi où le travail du sexe, en tout cas en tant que tel, est légal. Il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui tourne autour devient illégal. Louer un appartement, avoir accès à...
Ben c'est un peu la même chose qu'en France, finalement. C'est très proche.
C'est la même chose que le système français avant qu'il y ait la pénalisation des clients qui soit instituée en France, il y a un an de ça. Et du coup, voilà, on essaye un petit peu de faire bouger les lignes autour de ça. Je pense, moi, pour avoir milité dans les deux pays, que très franchement, ça marche mieux en Belgique. Et là, je me mouille pour mon collectif, je vais me faire engueuler. Mais parce que il y a aussi le côté flamand de la Belgique qui a... tendance à être beaucoup plus pragmatique sur des questions sociétales et pas dans une vision moraliste comme les francophones ont tendance à... Les francophones en Belgique et en France, je veux dire partout, ont tendance à montrer des positions vachement très vite moralistes et sous couvert de moralisme, on criminalise les personnes comme c'est le cas en France actuellement. Donc voilà, on essaye un petit peu de négocier avec ça en Belgique, mais c'est pas évident.
Pas francophonie et moralisme, ça pourrait être l'objet d'une future étude des chercheurs ici présents au cabaret des colères. Merci beaucoup, oui, ça va vous revenir ça. Merci beaucoup Marianne Chargois, Maxime Mass, merci. Oui. Yo, merci également. On vous laisse aller vous préparer pour les performances qui vont ne bah, pas tarder.
Ouais. En fait. Et puis le temps de changer de plateau, une petite pause musicale et on se quitte. Enfin, on se quitte. On se retrouve après, mais on se quitte. On quitte ce plateau justement avec un extrait d'un titre d'ABBA qui clôt le spectacle de Marianne, donc qui s'appelle Money, Money, Money. Tout le monde connaît. Hein.
Retour ici à l'hôtel de Guine où Info 30 a posé ses valises à l'occasion de l'édition 2017 du cabaret des colères et on parle aujourd'hui dans Info 30 de sexualité à l'occasion d'une journée d'études qui s'est tenue ce mercredi avec l'Université Populaire Colère du Présent. L'Université Populaire Colère du Présent qui a travaillé 4 ans durant pour accoucher, si vous me passez l'expression messieurs dames, de cet ouvrage que j'ai entre les mains, Script au pluriel et sexualité de la théorie à la pratique et retour, on verra que le retour est important. Bonjour Catherine Ansan.
Bonjour.
Vous êtes femme de lettres et Patrice Desmond, vous êtes philosophe et psychanalyste. Oui. Alors on a défloré le concept de script de la sexualité dans la première partie de l'émission. Est-ce qu'on pourrait très rapidement le repréciser pour que ce soit très clair ?
Vas-y.
Catherine.
Le mot script, plus familièrement on pourrait parler de scénario. C'est un concept qui nous vient du sociologue John Gagnon, un sociologue américain de l'école de Chicago.
Dans les années 70.
Qui, dans les années 70, proposé l'idée que la sexualité n'a rien de naturel ni d'universel, que nos sexualités sont construites et que nos pratiques sexuelles, nos rôles sexuels sont définis d'abord socialement par la culture dans laquelle nous naissons et nous évoluons.
Vous l'avez écrit comment ce livre, Patrice Desmond, Catherine et vous-même, vous en êtes les directeurs. C'est un ouvrage collectif, je l'ai dit, et pour l'avoir quelque peu feuilleté, il y a beaucoup de récits personnels, des récits au jeu. C'est une histoire personnelle et subjective de la sexualité d'un certain nombre de scripteurs. Ils sont C'est qui ces scripteurs ?
Alors en fait, comme on l'explique d'ailleurs dans l'introduction, on n'a pas du tout de prétention à représenter la population. Et d'ailleurs, comme on l'explique aussi de ce point de vue-là, c'est que pour parler de la sexualité, il faut déjà être passé par toute une histoire et j'allais dire, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Bon, donc les scripteurs sont d'origines diverses et variées. Ben, d'ailleurs, peut-être qu'ensuite on pourra échanger sur cela, donner plusieurs voix. Bon, et donc ce sont des personnes, ce sont des travailleurs sociaux, des enseignants, des artistes, des chômeurs, des personnes handicapées, des personnes valides, etc. Donc ça a été un groupe qui a fonctionné par réseau, par bouche à oreille, c'est le cas de le dire. Voilà, on ne peut pas dire que qu'il y a une représentation sociologique, même si peut-être il y a une sorte de représentation idéologique.
Alors parmi ces scripteurs, il y avait Céline, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez écrit votre script ? On trouve votre script dans le livre ?
Oui, tout à fait, oui, on trouve mon script dans le livre. Je l'ai écrit ben, à travers les réunions en fait, qu'on a tenues en groupe. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du groupe, voilà, les personnes intéressées devaient déjà commencer à travailler un petit peu sur leur script. Voilà, c'est-à-dire pouvoir écrire un petit peu sur sa sexualité en lien avec notre environnement, présenter ce qu'on avait rédigé au groupe et en échange, un petit peu comme un échange, on recevait les textes des autres personnes et puis on continuait le travail d'écriture de script. Et à chaque fois, il y avait ces échanges de textes avec les autres personnes membres du groupe.
Ça vous a apporté quoi ? Pardonnez le côté personnel peut-être de la question, mais ça vous a apporté quoi d'écrire votre script ?
Déjà, je pense que rien que de le mettre à l'écrit, ça permet de poser les choses et de regarder un petit peu bah voilà, comment je vis cette sexualité et de m'interroger sur ma sexualité, ce qui n'est pas forcément... parce que voilà, ce que je n'avais pas forcément fait avant. Donc ça m'a permis de me questionner sur cette sexualité, sur comment elle se construit, soit avec ce que je vis dans la société, avec ce que je vis des personnes que je rencontre et avec aussi mon histoire. Patrice développera peut-être les trois points, je n'ai pas forcément les noms en tête. Puis aujourd'hui, comme j'ai pu le renvoyer un petit peu sur cette journée d'études, puisque ça fait plus d'un an maintenant qu'on a terminé ce travail, c'est encore en continuité en fait. Quand je relis ce script, je me dis, bah, tiens, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a des choses qui font encore écho et que je peux continuer à avancer pour essayer de trouver la sexualité qui me correspond le plus.
Et alors pour les scripteurs, j'imagine que c'est peut-être pas toujours évident de décrire justement des expériences personnelles. Est-ce que le corps a vécu, on peut facilement le mettre en mots ?
Catherine.
Bah ça c'est une question littéraire effectivement.
C'est pour ça qu'elle vous incombe. Pas de chance.
Et on a donc échangé ces textes, mais sans aucune consigne d'écriture. Et d'ailleurs, ce qui a été assez beau, c'est de voir comment chacun s'est débrouillé avec la manière dont il pouvait parler de ses pratiques, de son corps, de ses fantasmes, de son histoire sexuelle, avec des styles très différents. Ça, c'est ce qui est beau. Il y a des textes qui sont presque érotiques parce que manifestement, le scripteur a retrouvé le plaisir... vécu et le transmet dans son écriture. D'autres travaux sont plus réflexifs, avec déjà des efforts d'analyse. Oui, je pense que même sans modèle ou avec des modèles variés que la société peut nous envoyer, on sait tous écrire sur nos corps et nos sexualités.
Patrice Desmond.
Oui, c'est simplement, je voulais rebondir sur le rapport entre corps et mots. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu dans la démarche des scripts, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la sexualité, on pense que c'est d'abord une histoire de corps, alors que l'expérience qu'on a quand on pense la sexualité à partir du script, on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que nos corps sont déterminés par nos mots. Ce sont nos mots qui font nos corps, ou qui en tout cas font nos corps sexuels, sexualisés, qui déterminent nos désirs, etc. Et c'est un peu étrangement, ça a été plus facile qu'on l'imagine. Et c'est sûrement à la portée de chacun. Et on a mis en place d'ailleurs différentes techniques pour que les personnes qui avaient une sorte de réticence autour de l'écriture puissent contourner. Et on l'a encore vu aujourd'hui d'ailleurs. Il y a un des auteurs qui, pour écrire son script, avait dit « Non, mais moi, l'écriture, je n'y arrive pas ». On l'avait interviewé, on avait réécrit l'interview et ensuite on a rediscuté avec lui de ce qu'on avait écrit, qu'on avait complété, etc. Et aujourd'hui, cette personne est venue avec un écrit. Alors que l'idée, c'était de se rencontrer pour en parler. Et le premier geste qui lui est venu, c'est justement d'écrire. Donc voilà, au passage, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est que l'approche sexuelle en termes de script permet précisément cette reconversion, on pourrait dire, du rapport entre le mot et le corps.
Ma dernière question, est-ce qu'elle est un petit peu à double sens ? Est-ce qu'il y a une certaine forme de libération de soi en retranscrivant ces scripts ? Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de fantasme qui n'existe pas peut-être réellement, mais qui finalement sort de manière littéraire ?
Alors moi, je vais avoir une réponse triviale. Oui. Mais c'est comme quand on est en camping et qu'on voit les autres vivre sous nos yeux, faire la vaisselle à leur manière, etc. Eh bien, partager des scripts, c'est tout simplement, ça libère simplement de voir que c'est pas plus bizarre que ce que font les autres. Ça normalise, ça rend les choses moins taboues, moins angoissantes, parce que je pense que les gens sont angoissés à l'idée de parler de leur sexualité. Et que l'expérience du groupe, ça a été de montrer que mais c'était possible.
Patrice Desmond, d'un mot.
D'un mot quoi ?
D'un mot, la réponse, votre réponse à la question posée par Boris.
Est-ce qu'il y a, peut-être la deuxième, est-ce qu'il peut y avoir une certaine forme de fantasme, justement, qu'on couche de façon littéraire ?
Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, certains lecteurs du livre peine à imaginer que ce qui est écrit est effectivement biographique et pense que ce sont des fantasmes. Alors ça a été toute une histoire, le rapport entre biographie et fantasme. Si vous lisez le livre, vous verrez qu'on a essayé de réfléchir sur ça. Mais après tout, et même si ce sont des fantasmes, pourquoi pas ?
Le livre « Script et sexualité de la théorie à la pratique et retour » paru à Bibliothèque Gay-Kitschkamp. Question de genre, ça c'est l'éditeur. Merci à tous, merci à l'équipe de Colère du Présent pour son accueil, merci à Boris qui était aux manettes pour cette émission. C'était Info 30, enregistré à l'Hôtel de Guine depuis le Cabaret des Colères, qui vous donne rendez-vous tous les soirs de cette semaine jusqu'à samedi. Toutes les infos sur le programme sur le site colèredupresent.com.
Et puisque c'est toujours bon de se quitter pour ceux qui le pratiquent, et ben on va se quitter avec le groupe Cigarettes After Sex. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.